Merci beaucoup pour vos remarques. Vos conseils en littérature, effectivement, moi je suis ni géographe, ni sociologue urbain, ni. J'ai pas non plus d'études en aménagement, donc tous ces conseils du lieu, je les crois. Moi, en fait, la question que vous m'avez posée, si j'ai compris, c'est est-ce que la littérature que j'ai mobilisée permet vraiment d'analyser l'ampleur de ces changements? Moi, en fait, la question de départ n'était pas la suivante. Moi, j'ai une entrée par les acteurs en tant que premier ministre, salle d'information dans mon labo de recherche qui est plutôt focalisé sur la sociologie des organisations, donc des relations entre les acteurs, des modes d'action collective, des ressources, des contraintes, des relations de pouvoir, etc. Donc j'ai une entrée là-dessus parce que, et de sociologie économique, où moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si. Mon entrée, ma perspective, c'est pas de savoir si ça change effectivement ou pas, mais de voir de voir comment des registres d'évaluation, de valorisation sont retransformés par un ensemble d'autres valeurs, comment l'évaluation, la valorisation économique est reconfigurée par d'autres modes de valorisation, notamment environnementaux, et quels sont les rôles d'acteurs spécifiques qui interviennent dans ces processus-là. Or, moi, dans une grande partie, même si depuis quelques années, les sociologues se sont focalisés sur les intermédiaires du marché, c'est une littérature qui reste quand même relativement, en tout cas qui a été remise en avant il y a finalement assez peu de temps, et où cette entrée-là, par les intermédiaires, par les bureaux d'études, bon, d'une part, elle est née d'un étonnement, hein, parce que à chaque fois que je demandais sur mon terrain, à la fin de l'entretien, est-ce que vous pouvez m'orienter vers d'autres acteurs, jamais on m'orientait vers un expert de bureau d'études. Par exemple. On disait qu'on allait voir tel promoteur, tel manager, tel architecte. Donc, même par les acteurs eux-mêmes, même s'ils savent effectivement que choisir un bon bureau d'études, c'est s'assurer d'avoir un bon conseil, etc., c'est quelque chose qui n'était pas forcément évident. Le pouvoir, en tout cas, de ces bureaux d'études n'est pas forcément vu de manière évidente, parce qu'on considère que ce n'est pas forcément eux qui ont leur décision entre leurs mains. Or, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'au contraire, ils structurent complètement les conditions de construction du jugement. Et par ailleurs, et ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans ce que j'ai vu, donc là, bon, c'est un travail en cours, mais j'essaie de. Du coup, c'est un impact aussi en termes de sociologie des professions, c'est-à-dire que ces bureaux d'études-là, ils apportent une technicisation croissante des problématiques des constructions, etc., et qui se comprend aussi dans des contextes de projets qui rassemblent des acteurs qui, soit sont des acteurs aux professions très constituées, très institutionnalisées, comme les architectes, comme on a montré par exemple Florent Champy, ou des acteurs qui disposent pour le coup de ressources politiques ou économiques considérables, comme les promoteurs ou les aménageurs. Et donc, dans ce que je vois, c'est que les acteurs eux-mêmes, les architectes, les promoteurs, les aménageurs, notamment les architectes, hein, quand je discutais avec eux, ils sont extrêmement désemparés ou extrêmement énervés de voir cette ascension, cette émergence de bureaux d'études qui reconfigure leur travail d'architecte, où on dit il faut maintenant les fenêtres doivent être. Enfin, on est obligé de faire des tupperwares pour que les responsabilités soient. On est obligé de mettre maintenant des panneaux photovoltaïques visibles alors qu'on trouve ça hyper laid, etc., etc. Donc c'est plutôt, moi j'ai, voilà, j'ai une entrée par les acteurs, donc du coup je réponds un peu de manière latérale, mais ça c'est pas beaucoup ça.